Marie Webb, Le précieux fléau, livre 2, chapitre 7, Le maître est là. Eh ben, Sarn, dit Mère, à notre retour, on en a filé une bonne quantité, et la fête a été réussie. Maintenant, tes draps de noces sont sur le métier. Gédéon paraissait un peu gêné quand il déclara qu'il se passerait encore pas mal de jours avant que la somme d'argent nécessaire soit réunie pour cet événement. Notre proue a gagné à sa table. Oh, vraiment, bien joué. C'est une chose qu'il comprenait bien et pouvait apprécier parce que lui-même aimait gagner. Assez de gâteaux pour une semaine de 9 jours, ajouta-t-elle. Elle a dû se dire que ça ferait des économies. Pas du tout, mère, rétorquai-je. Mais alors pourquoi? J'en sais rien, mais c'est juste que je voulais gagner aux couleurs précieuses, mère, répondis-je stupidement. Mais à quoi ça sert si ça rapporte pas les gâteaux? Je dis que, bien sûr, ça n'avait pas d'intérêt, mais que je les voulais quand même, ces couleurs précieuses. Elle est à moitié endormie, répliqua Gédéon. Sinon, elle aurait son bon sens. Mieux vaut aller vous coucher toutes les deux. Et mon tour pour les agneaux, lui demandai-je. Parce qu'en période d'agnelage, je veillais une partie de la nuit pour permettre à Gédéon de prendre un peu de sommeil. Mais il me dit que ce n'était pas la peine et qu'après cette bonne journée, je n'avais qu'à finir en beauté par une bonne nuit.
J'ai été comme un châtelain à pas faire grand-chose toute la journée, ajouta-t-il. Obligé que j'étais de faire ces petits travaux de la maison.
Au fond, c'était un bon gars, malgré tout. Et s'il lui arrivait de ne pas faire quelque chose de gentil, c'était uniquement parce qu'il n'y pensait pas, ou parce qu'il avait l'esprit tellement fixé sur une seule chose. Il lui arrivait, quand il avait été odieux, et qu'il finissait par s'en rendre compte, assez longtemps après d'ailleurs, de le regretter amèrement. Allons, alors au lit, Prou. Mère sautillait avec sa canne comme un rouge-gorge pris de rhumatisme. Ça a été une journée magnifique, une journée dont on se souviendra longtemps. Il n'y a pas eu de mal à ça, parce que même si on est encore en deuil, on y est allé pour rendre service. Personne ne peut nous reprocher de rendre service. Me suis bien comporté, tu crois, Prou?
Oh oui, pas d'inquiétude là-dessus, mère.
J'ai bien filé?
Tu files merveilleusement bien.
Elle posait toujours ce genre de questions, comme un enfant. Et c'est aussi comme un enfant qu'on voulait la blottir contre son cœur.
Et quel plaisant jeune homme ce tisserand, Sarn. Un homme que n'importe quelle femme aimerait avoir pour fils.
C'était ce Hootchives?
Oui.
On dit que c'est un bon lutteur. Et pour quelqu'un de notre milieu, il a aussi étudié dans les livres. Le châtelain lui a proposé un travail d'écriture à la mairie, mais il a refusé. Il a dit qu'il aimait mieux travailler de ses mains et qu'il ne pouvait pas supporter les politiques, parce que c'était tous des menteurs, et qu'il préférait rester propre. « Je tisserais du linge blanc plutôt que de noirs mensonges », qu'il a dit. Et le vieux châtelain en a été tout irrité. Il aurait bien aimé pouvoir menacer Hootchives de quitter l'endroit, seulement. La maison était à lui, léguée par son oncle.
Mère voulut savoir si le tisserand me plaisait.
Je pensais que non, ma chérie, puisque tu n'as pas dit un mot et que tu es restée derrière le banc.
S'il me plaisait, dis-je. Oh, s'il me plaisait.
Mais regarde-toi, Prou, tu dors debout, dit Gédéon. Ou Stoli, ou tu feras pas ta journée de travail demain.
En réalité, ce n'était pas que je tombais de sommeil, mais j'étais fort troublée. Je trouvais la situation invraisemblable, totalement invraisemblable. Voilà que le maître était là, et que vous auriez aimé lui apporter tout ce qu'il y avait de meilleur, du beurre frais, des fromages sur de grands plats, un pichet à ras bord de bon lait.
Vous auriez voulu être en robe du dimanche avec un bouquet de fleurs et acquiescer à toutes ses demandes avec le sourire. Mais voilà, quel malheur. Rien de tout cela n'était possible. Parce que vous aviez un bec de lièvre et qu'on vous accusait de sorcellerie. Le maître est là et te demande. Le maître est là. Note de la traductrice. L'auteur fait référence à un verset d'évangile de Jean quand Marthe dit à Marie que Jésus est là et qu'il l'attend. Fin de la note, reprise du texte. Le maître est là et te demande. Le maître est là. Toute la nuit, dans le grenier, ces mots résonnèrent en moi, triomphants et, cependant, si tristes. Et quand l'obscurité diminua, que des formes commencèrent à sortir des ténèbres, que les parfums de l'aube parvinrent jusqu'à moi, que notre coq lança son chant vibrant et mélodieux pour saluer la venue du printemps, eh bien, ces mots, je les entendais encore. Il émanait d'eux un profond bien-être, mêlé d'un frisson d'angoisse. Le maître est là. Ces mots me hantaient tant et me perçaient l'âme d'une telle suavité que je les inscrivis dans mon cahier. De tout ce que j'avais pensé écrire sur la veillée d'amour, sur le jeu des couleurs précieuses et sur sa venue à lui, j'écrivis bien peu. Pourtant, quand j'ouvre le cahier et que je vois ces quatre mots de ma plus belle écriture, tout me revient aussi nettement que si cela datait d'hier. Il m'a toujours suffi de poser les yeux sur le métier pour le revoir là en train de tisser ou de regarder mon cahier pour me rappeler que je m'étais demandé s'il savait faire la grande et la petite écriture, en rouge et en noir, avec des lettres simples ou ornées, et de ne pas avoir douté qu'il savait tout cela et plus encore. Le lendemain matin, Jensis descendit l'allée en courant et j'aurais voulu lui demander « Va-t-il bien ?» parce qu'il m'apparaissait que n'importe quoi aurait pu lui être arrivé pendant les heures sombres de la nuit. Mais je ne pus que dire « Quand est-ce qu'il part ?» Le tisserand. « Oh !»« Demain, » répondit-elle, comme si cela n'avait eu aucune importance. Alors, elle se mit à pleurer et à implorer mon aide, parce que Begidi avait décidé de faire apparaître Vénus pour confondre le jeune châtelain quoi qu'il arrive. « Et Vénus, ce sera moi. Oh, mon Dieu, c'est pour après-demain, et j'ai peur, Prou, parce que si jamais Sarne apprend que je me suis présentée dans une pièce entièrement nue, sous une lumière rose, alors qu'un étranger s'y trouvait, il ne me reparlera plus jamais. « C'est sûr, dis-je, car je connaissais fort bien Gédéon. Et il finira par le savoir. Oh, c'est bien possible. Mais père est fou à propos de ça, faire apparaître Vénus, voilà ce qu'il veut. Il dit que le jeune Camperdine a bien ri et qu'il lui a tapé sur l'épaule et lui a dit qu'il lui donnerait 5 livres, quelle que soit la chose qu'il ferait apparaître. 5 livres, Prou, et quand j'ai dit non, il m'a frappé. Il m'a dit que si je ne voulais pas lui obéir, il me ferait faire les travaux du champ, et qu'il me frapperait tous les samedis pendant 1 an. Oh, Prou, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Comment est-ce que ça marche? Oh, je dois me trouver dans la cave, sous sa chambre, et la trappe sera ouverte. La corde qui me soutiendra sous les bras est accrochée à une poulie fixée au toit. Mère doit se trouver à la cave pour actionner le propulseur de fumée qui doit m'envelopper et pour me mettre la corde correctement. Alors, père tirera la corde depuis la cuisine, sous la porte, et je monterai lentement sous la lumière rouge. Il a dit que ce serait trop brumeux pour qu'on puisse voir mon visage. Mais ça ne me console pas. Ça ne sera pas une excuse pour Sarne. Non. Aimes-tu vraiment Sarne,
Genesis ?
Oh oui. Te rappelles-tu ce texte ? Le maître est là.
Dans la Bible ? Ah oui, je m'en souviens.
Ressens-tu la même chose pour Gédéon ?
Son visage se colora joliment.
Oh oui, vraiment, Sarnet le maître.
Et l'autre, et par demain, tu m'as dit.
Quel autre ?
Bah, monsieur Woodsives.
Ah oui, il part demain.
Bon, écoute bien, Genesis.
Je vais le faire pour toi.
Toi ? Sa bouche devint rouge et ronde d'un tel étonnement
que je l'aurais battu.
Oui, moi.
Je sais que c'est une chose bien drôle de prétendre jouer les Vénus, dis-je amèrement.
Mais père va le savoir.
T'as dit qu'il doit se trouver dans la cuisine.
Et le jeune homme?
T'as dit qu'il ne peut pas voir ton visage. Il fera sombre et je me tournerai de côté. Je poserai sur ma tête la mousseline qu'on utilise pour les groseilliers, de façon à ce qu'il ne voie pas mes cheveux bruns. Il verra ce qu'il est venu voir, ce stupide jeune coq, une femme nue. Alors, il donnera l'argent et tu seras libre.
Oh, Prou, que tu es gentille. Je t'aime, Prou. Je te le rendrai un jour. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça peut pas te faire de tort, vu que tu n'auras jamais d'amoureux.
Les gens peuvent être si cruels sans le vouloir. Telle fut la récompense de ma gentillesse. Et ceux qui prétendent que les bonnes actions sont récompensées ont bien tort. J'aurais aimé l'étrangler pour cette parole. Le sang me fustigeait les oreilles tant j'étais en colère.
« Va-t'en maintenant, » lui dis-je. « On en reparlera demain, mais maintenant disparaît de ma vue. »
Toute décontenancée et apeurée, elle partit.